Et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Boris Johnson sera officiellement aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique. Il entrera en fonction cet après-midi. Au programme pour lui, une entrevue avec la reine, puis la formation de son gouvernement. Le champion des partisans du Brexit a été choisi par 66% des militants conservateurs hier. Et c'est maintenant que les difficultés commencent pour Boris Johnson, qui souhaite un Brexit, quoi qu'il arrive, au 31 octobre prochain, avec ou sans accord avec l'Union européenne. Mais hier, il affichait avant tout une confiance indéfectible.
On va donner de l'énergie à ce pays. On va faire le Brexit le 31 octobre. On va profiter de toutes ces nouvelles opportunités, de ce nouveau souffle pour entreprendre. Nous allons recommencer à croire en nous et en ce que nous pouvons réussir. Nous allons nous lever, nous débarrasser des œillères qui nous font douter de nous-mêmes et qui nous rendent négatifs. Avec une meilleure éducation, de meilleures infrastructures, une meilleure police, le haut débit avec la fibre dans chaque maison, nous allons réunir ce pays incroyable et nous allons l'emmener plus loin. Merci à tous pour l'honneur incroyable que vous me faites. La campagne est finie, le travail commence.
Aux États-Unis, des millions d'Américains devraient suivre aujourd'hui l'audition au Congrès de Robert Mueller. Pendant presque 2 ans, le procureur spécial a enquêté sur les liens entre Moscou et l'équipe de campagne du président américain avant de livrer ses conclusions. Pas de preuve de collusion, mais une possible entrave à la justice de la part du milliardaire. À propos de cette audition, Donald Trump évoquait lundi une perte de temps. Et si le président américain depuis s'estime blanchi, ce n'est pas le cas des démocrates qui ont donc convoqué Robert Mueller pour espérer le faire parler. À New York, Loïc Loury.
Pas de collusion, pas d'obstruction, a encore répété Donald Trump. Le président américain estime avoir gagné. Je ne regarderai pas Mueller, dit-il, affirmant être irrité mais pas inquiet. Et pour cause, le discret et méthodique procureur jusque-là ne s'était exprimé que 9 minutes sur son rapport. Il pourrait ne pas en dire beaucoup plus aujourd'hui au Congrès. Robert Mueller, ancien chef du FBI, en effet est un habitué de ces auditions et un spécialiste des réponses laconiques. Le ministère de la Justice, par ailleurs, lui a rappelé par courrier que son témoignage ne devait pas aller au-delà des limites de son rapport d'enquête. Côté démocrate, c'est pourtant bien l'objectif, pousser le procureur dans ses retranchements avec des questions très ciblées. Y aurait-il eu assez de preuves, notamment pour inculper Donald Trump d'obstruction à la justice s'il n'avait été qu'un citoyen ordinaire? Pour l'opposition, il s'agit de toucher les Américains qui regarderont cette audition. Le fameux rapport, long et indigeste, n'avait pas eu au-delà de ses conclusions molles l'effet escompté. Lorsque les gens entendront ce qu'il y a dans ce rapport, dit un démocrate visiblement optimiste, eh bien nous serons en mesure, dit-il, d'engager la responsabilité du président.
Loïc Loury à New York pour France Culture. En Russie, l'opposant Alexei Navalny annonce à l'instant avoir été arrêté, selon les réseaux sociaux. Nous y reviendrons sur nos prochaines éditions sur France Culture. 12 personnes ont été tuées lors d'une attaque d'insurgés islamistes dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que cette région de la RDC est frappée de plein fouet par une épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. L'OMS a déclaré la semaine dernière l'urgence de santé publique de portée internationale. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. En France, le tribunal de commerce de Strasbourg va se prononcer une énième fois aujourd'hui sur la reprise de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Un délibéré prévu sur un plan de reprise modifié de la scierie puisque le repreneur Olympus a vu sa maison mère British Steel mise en faillite quelques semaines seulement après la reprise. Olympus, ou plus exactement le fonds d'investissement détenant Olympus, a donc dû fournir de nouvelles garanties. Le cas d'Ascoval, en plus d'être compliqué, surtout emblématique d'une politique industrielle française qui navigue à vue à leur choix.
On pensait pourtant le cas Ascoval réglé après de multiples rebondissements, la volte-face de son premier repreneur, Altifort, en redressement judiciaire depuis, puis l'arrivée du groupe Olympus qui offrait des garanties a priori sérieuses. Voilà que ce sauvetage est à nouveau remis en cause avec la faillite de l'une des 2 entreprises sidérurgiques d'Olympus, British Steel, qui aura forcément des conséquences sur la future activité du site de Saint-Saulve. Celui-ci était en effet censé fournir en acier plusieurs usines de British Steel. Il faut au minimum des garanties en plus, étant donné cette nouvelle conjoncture. Bref, tout cela commence à ressembler à une descente aux enfers qui résonne dramatiquement après les autres fiascos de General Electric ou Whirlpool. Deux autres sauvetages ratés qui sont le symptôme de la mauvaise santé du secteur français de l'industrie et notamment sidérurgique, parce que le contexte de l'acier n'est pas favorable. Il est en surcapacité, l'acier venu de Chine et d'Inde est vendu bien moins cher. La France a également sans doute mal négocié le virage consistant à fabriquer un acier plus léger et plus résistant. Le rôle de l'État dans le déclin de cette filière industrielle stratégique a d'ailleurs été pointé il y a quelques jours dans un rapport sénatorial qui notait l'absence de vrais outils de pilotage stratégique d'un État qui se contente de jouer les pompiers. Un rapport qui préconisait en plus de mesures anti-dumping visant les producteurs d'acier chinois, indien et russe, le retour d'un ministre entièrement dédié à l'industrie.
Anne-Laure Chouin. La PMA est présentée ce matin au Conseil des ministres. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou lesbiennes en couple. C'est la mesure phare de la révision des lois de bioéthique. Jusqu'ici, seuls les couples hétérosexuels ont accès à la PMA. Six membres du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, ont claqué la porte ces derniers jours. Il s'agit de six hommes, six chercheurs. Selon eux, il n'est pas normal qu'il n'y ait aucune chercheuse femme dans la nouvelle composition de cette instance qui réfléchit à l'inégalité de genre et dont les membres sont nommés par le Premier ministre et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Précision d'Ilan Manka.
Au cabinet de Marlène Schiappa, on affirme qu'il n'a jamais été question d'exclure les chercheuses. Des femmes qui pensent la société au sein du HCE, il y en a, nous assure-t-on. La nouvelle directrice Brigitte Grézy, par exemple, n'est pas chercheuse, certes, mais a écrit de nombreux rapports sur l'égalité entre hommes et femmes. C'est par ailleurs la première fois que le Haut Conseil est véritablement paritaire avec 27 femmes et 27 hommes. Voilà donc pour l'argumentaire du secrétariat d'État. Mais, et c'est là toute la question, un groupe qui a pour mission de réfléchir à l'égalité entre les sexes, peut-il se passer de chercheuse? Peut-on vraiment, dans ce cas précis, le qualifier de paritaire? Les six démissionnaires estiment que non. Antoine Matt est l'un d'eux.
Je suis persuadé que c'est involontaire, qu'il s'agit d'une maladresse. Mais cette maladresse est assez révélatrice. De la façon de nommer. Il y a un certain déséquilibre, un déséquilibre qui est d'autant plus problématique que dans le domaine de la recherche sur les inégalités entre femmes et hommes et sur le genre, les femmes sont très très majoritaires. Elles ont été précurseurs, d'ailleurs souvent dans l'adversité, elles ont fait l'objet de rejets, de formes d'invisibilisation. Donc il y a un certain paradoxe à ce qu'il n'y ait pas cette parité.
Reste à savoir comment recomposer l'équipe, puisqu'il faut respecter la parité. Les démissionnaires ne pourront en effet être remplacés que par des hommes. Ce qui nous ramène en quelque sorte au point de départ.
Ilan Malka. C'est un record en France. 80 départements sont en alerte orange à la canicule. On devrait compter en moyenne ce matin 27 à 32 degrés, même jusqu'à 40 degrés sur l'est de la France. Dans la matinée, 31 degrés à Poitiers, 32 degrés à Lyon et Paris pour atteindre 38 degrés sur l'Île-de-France cet après-midi. Seules exceptions, la Bretagne et les côtes normandes avec en moyenne 20 à 25 degrés aujourd'hui. Le pourtour méditerranéen, lui, restera entre 28 et 32 degrés sur la journée. C'est la fin de cette édition. Préparé avec Emmanuel Faucillon et François-Charles Domergue, avec à la technique Olivier Arnay.